Un homme retrouvé mort à Saint-Quentin dans la nuit de samedi à dimanche. Une enquête pour homicide volontaire est ouverte. Deux suspects ont été placés en garde à vue. Dans ce journal, vous retrouverez comme tous les lundis la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. Le début de nos pages spéciales rentrée scolaire. Coup de projecteur ce midi sur la rentrée dans le premier degré à Nouméa. Les effectifs sont encore en recul. En métropole, Jack Lang démissionne de son poste de président de l'Institut du Monde Arabe. Il n'a pas résisté à la pression après les révélations sur son lien avec Jeffrey Epstein. Et puis nous parlerons du cours du Bitcoin. Il s'est effondré la semaine dernière, atteignant 50% de sa valeur par rapport au pic d'octobre dernier. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal que nous prolongeons avec le magazine des sports comme nous le faisons chaque lundi. Bonjour Michael Juneski.
Bonjour Jean-François.
Une actualité olympique puisque les JO ont débuté, c'était ce week-end à Milan Cortina.
Exactement.
JO d'hiver bien sûr.
Oui, les Français qui ont d'ailleurs décroché leur première médaille d'or la nuit dernière. Le biathlon sur qui de nombreux espoirs reposent a tenu son rang avec le succès des Français sur le relais mixte. Une bonne entrée en matière et puis une belle surprise en ski de fond avec Mathis Desloges qui lui a remporté de l'argent. Les Français sont désormais 7e dans le tableau des médailles à l'issue de la deuxième journée d'épreuve.
La Ligue 1 de football et le PSG qui reprend le pouvoir.
Oui, le classique lors de la 21e journée du championnat de France a donné lieu à un récital du PSG. Victorieux de Marseille, 5 buts à 0 avec notamment un doublé de Dembélé. Paris a été sans pitié face à son rival marseillais pour reprendre la tête de la Ligue 1 tandis que l'OM chute du podium.
Nous reviendrons évidemment également sur la première journée du tournoi des 6 nations et puis dans la page consacrée à l'actualité sportive en Calédonie, nous parlerons VAA avec notre invité.
Oui, la nouvelle présidente de la Ligue calédonienne, Fabienne de Vambès, qui a pris les rênes de l'instance locale du VAA et du canoë-kayak à l'issue de l'Assemblée Générale qui se déroulait ce week-end. Elle sera notre invitée pour faire l'état des lieux de la discipline et évoquer les projets à venir pour 2026.
Rendez-vous dans le MAC des Sports dès la fin de ce journal. Une enquête pour homicide volontaire. La police judiciaire cherche à déterminer les circonstances de la mort d'un homme de 45 ans dans la nuit de samedi à dimanche à Saint-Quentin. Le procureur de la République a rendu public ses premières constatations, Nicolas Legrand.
Oui, peu d'éléments à l'heure actuelle sur les circonstances de ce drame. On sait, selon le communiqué du procureur de la République Yves Dupas, que l'homme de 45 ans a été retrouvé grièvement blessé à Saint-Quentin. Il était inconscient et un médecin du SAMU a déclaré son décès vers 1h10 du matin. Il présentait des blessures importantes, notamment un enfoncement facial volumineux et des plaies au niveau du visage. La police a immédiatement été mobilisée dans cette affaire et a repéré deux individus fortement alcoolisés. Deux suspects qui présentaient des blessures mais aussi des traces de sang au niveau des pieds. Les deux mis en cause, âgés de 20 et 24 ans, ont été placés en garde à vue. Ils ont reconnu avoir porté des coups de pied et des coups de poing à la victime. Une autopsie sera réalisée dans les prochains jours. Le parquet prévoit d'ailleurs d'ouvrir cet après-midi une information judiciaire du chef d'homicide volontaire. Les investigations se poursuivent afin de faire la lumière sur le contexte de ce passage à l'acte criminel. Le procureur doit d'ailleurs communiquer davantage d'éléments dans la journée. On sait que la victime était particulièrement impliquée dans le monde du sport et du volley en particulier. Elle se faisait appeler Joëlla et était également présente sur les réseaux sociaux. À ce stade, le mobile et les circonstances ne sont pas encore connus.
Et pour poursuivre ce journal, on va retrouver le rendez-vous du lundi. C'est bien sûr la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir.
Que d'incertitudes pour cette année 2026, alors que c'est déjà la dernière semaine des vacances scolaires et que la rentrée se profile. Des incertitudes, pas tant sur la rentrée des classes, hormis le psychodrame de l'ADEC, mais des incertitudes partout ailleurs et singulièrement sur le calendrier politique des prochains mois, dont on sait seulement qu'il sera très fourni, et qu'en théorie, les Calédoniens devraient être appelés aux urnes à trois reprises. Ce sera d'abord pour les élections municipales, et c'est l'une des rares dates dont on soit sûr. Elles auront lieu les 15 et 22 mars. Une autre date est certaine, celle du 24 février, pour le début de l'examen par le Sénat de la réforme constitutionnelle qui devra ensuite être examinée par l'Assemblée nationale. Et on parle déjà, selon un confidentiel du Figaro, de la date du lundi 13 avril pour une réunion du Parlement en congrès à Versailles pour adopter la révision constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie. Une date à prendre avec précaution, étant donné tous les obstacles qu'il faudra franchir d'ici là. L'adoption par le Sénat de la réforme constitutionnelle ne devrait pas causer trop de problèmes. Sauf que le groupe socialiste émet déjà des réserves et prétend amender le texte. Et ce ne sont pas les deux sénateurs calédoniens qui défendront l'accord de Bougival. Même si ce n'est pas pour les mêmes raisons, ils y sont tous les deux opposés. Voilà qui ne va pas simplifier la compréhension de leurs collègues du Palais du Luxembourg. Mais passer le Sénat en espérant que le texte ne soit pas trop amendé, ce qui compliquerait son examen par les députés, ce sera l'épreuve du Palais Bourbon. Et là, rien n'est joué au vu des oppositions déjà identifiées et de celles qui pourraient se manifester. C'est seulement si les députés et les sénateurs adoptent la réforme constitutionnelle en termes identiques que le Congrès sera convoqué à Versailles, où le texte devrait être approuvé à la majorité qualifiée des 3/5. Et c'est seulement si cette réforme est adoptée que le reste du calendrier pourra se dérouler comme prévu, avec la consultation des Calédoniens en juin ou juillet et les élections provinciales avant le 31 décembre. Mais pour ne rien omettre de la complexité de la situation, il faut rappeler que cette réforme constitutionnelle comprend une ouverture du corps électoral pour les élections provinciales, un sujet qui, depuis mai 2024, a pour beaucoup des allures de nitroglycérine. Bref, rien n'est sûr, hormis les municipales des 15 et 22 mars. Et même si on nous répète que c'est un scrutin local et de proximité, il y a fort à parier que l'accord de Bougival et son accord complémentaire Élysée-Oudinot s'inviteront dans la campagne. Mais pour l'instant que la donne est confuse, on assiste à une fragmentation de tous les camps et parfois à une concurrence absurde face aux enjeux calédoniens. Une division qui touche tous les camps, mais qui frôle la dispersion chez les indépendantistes. Après que l'UNI et l'UPM aient quitté le nouveau FLNKS, voilà que ces deux partis sont soumis à une dissidence soigneusement instrumentalisée qui vient encore ajouter à la confusion. L'Éveil océanien aussi est rattrapé par la division, certains de ses militants refusant son orientation trop favorable à l'indépendance. Mais cela ne rebute pas Calédonie Ensemble, qui, nécessité fait loi, avait déjà constitué un groupe politique au Congrès de la Nouvelle-Calédonie avec le parti océanien, et qui va maintenant s'associer à lui pour les municipales. Une recomposition qui donne du corps à la troisième voie, ou à la voie médiane comme il l'appelle, celle qui a signé Bougival après avoir approuvé Deva. Décidément, cette année risque d'être celle de toutes les incertitudes, mais aussi de toutes les incohérences.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir à retrouver sur notre site internet, à réécouter également cet après-midi juste après le flash de 16h.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS avec notre question du jour. Alors que les candidatures commencent à se faire connaître, craignez-vous une dispersion des listes de candidats pour les élections municipales des 15 et 22 mars ? Si vous craignez cette dispersion, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. À 11h38, une première pause dans ce journal et dans un instant, nous ouvrons notre première page spéciale rentrée scolaire. C'est dans une semaine maintenant.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Samedi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Pensez à réserver votre table au restaurant Pizza and Pasta au 24 30 70 et retrouvez les suggestions spéciales Saint-Valentin sur la page Facebook Pizza and Pasta.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Et pour poursuivre ce journal, nous ouvrons une page spéciale rentrée scolaire.
Suivez les pages rentrées avec l'As de Trèfle. C'est la rentrée à prix mini à l'As de Trèfle. Jusqu'au 22 février, retrouvez un large choix de produits de qualité, papeterie, agenda, sacs et cartables, multimédia et livres, et votre liste scolaire est préparée gratuitement. Pour une rentrée sans stress, rendez-vous à l'As de Trèfle Magenta, Quartier Latin et Coumac, ou sur asdetrèfle.nc. Ouais.
Nous sommes maintenant à une semaine de la rentrée scolaire et nous nous sommes intéressés ce matin à la donne dans la commune de Nouméa qui gère 41 écoles dans le premier degré, maternelle et primaire. Jean-Pierre Delrieux, premier adjoint au maire chargé de l'enseignement, était ce matin notre invité à 7h30. Cette année, 6700 élèves environ seront accueillis dans les écoles du premier degré à Nouméa. Des effectifs qui continuent de baisser, nous a dit Jean-Pierre Delrieux.
On perd quand même encore 280 élèves puisqu'on était à 7000 l'an dernier. C'est le différentiel entre les CM2 qui partent au collège et puis les petites sections qui rentrent à l'école. Ça, c'est dû depuis plusieurs années avec le taux de natalité en chute, on le sait. Donc, on n'arrive pas à combler. C'est entre 200 et 300 élèves chaque année. On travaille en lien avec la province sud, évidemment, notre partenaire. Et donc, ce sont 10 classes qui ont fermé et nous allons en ouvrir deux. L'école Les Orchidées avait brûlé. Il y avait un déficit de classe maternelle. Donc, on en a aménagé deux à l'école élémentaire Daniel Talon avec toilettes, etc. Tout ce qu'il faut pour accueillir les tout-petits.
La période des vacances scolaires a permis à la mairie d'effectuer un certain nombre de travaux, comme chaque année, dans les établissements scolaires et notamment les écoles, particulièrement des travaux de sécurisation.
Nous avons les travaux de sécurisation. Alors là, il y a eu deux gros projets, celui de la barrière de Charles Bichon, parce qu'on a des intrusions constamment. Et il y aura Marie Courteau qui est au 4e kilomètre, Gervolino, où là aussi on a des intrusions constamment. Donc on fait une barrière de 2 mètres avec beaucoup de longueur. Donc ça, c'est le côté sécurisation. Pour ce qui est des travaux, on poursuit avec la province sud qui nous en finance une grosse partie, la climatisation dans les écoles, avec la pose de panneaux photovoltaïques. Donc il reste 15 écoles à équiper et on doit finir ça cette année. Ça a commencé pendant les vacances et ça va se poursuivre pendant les petites vacances scolaires.
Le budget consacré cette année à l'enseignement à Nouméa se monte à près de 2 milliards de francs. Il est destiné principalement à payer le personnel dans les écoles, notamment le personnel de cantine, dont les prix cette année à Nouméa ne vont pas augmenter, a confirmé Jean-Pierre Delrieux.
Il n'y a pas d'augmentation, je rassure les parents tout de suite. Donc c'est 1150 francs la prestation, je dirais, parce qu'il y a la moitié du repas à payer au prestataire, la moitié pour les frais de personnel. Donc nous avons eu une aide avec le Fonds de solidarité républicain versé par l'État, donc la mairie a eu 468 millions pour diverses activités et 40 millions sont destinés à la cantine. C'est-à-dire que ça fait à peu près 7000 francs de ristourne sur l'année pour les parents, 50 francs par repas tout au long de l'année.
Jean-Pierre Delrieux, premier adjoint au maire de Nouméa en charge de l'enseignement, qui était donc ce matin notre invité. Vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site internet rrb.nc. Toujours au chapitre de la rentrée scolaire, après la fermeture de plusieurs internats dessinés par l'ADEC la semaine dernière, de nombreuses familles doivent revoir la scolarité de leur enfant. Les démarches pour une inscription dans le public annoncée par le gouvernement commencent dès aujourd'hui. Première étape, consulter la carte de sectorisation pour connaître le collège ou le lycée public de votre secteur. Vous pouvez aussi contacter la division de la scolarité de l'affectation au vice-rectorat. Une fois que vous avez les informations nécessaires, il suffit de prendre directement contact avec l'établissement choisi, muni des documents nécessaires. Attention, vous avez jusqu'au 9 février, 16h, c'est-à-dire cet après-midi, pour effectuer ces démarches. Et donc le seul jour où ce sera possible pour les lycées professionnels, il faudra patienter encore un peu. À partir de la semaine prochaine, semaine de la rentrée scolaire, les familles devront s'adresser à l'établissement où leur enfant était scolarisé en 2025 pour formuler leur vœu d'inscription. Les demandes seront ensuite étudiées par le vice-rectorat. Les affectations se feront en fonction des places disponibles dans les établissements publics et si besoin, une solution alternative pourra être proposée. La rentrée scolaire, c'est donc dans une semaine, mais la rentrée à l'université, c'est fait. Ce matin, après une semaine d'accueil et d'intégration, plusieurs milliers d'étudiants ont repris le chemin des cours, Léo Fichou.
Oui, sur le campus de Nouville, c'était l'émulation. Dans un brouhaha qui signe le vrai retour à la vie universitaire, les anciens ont échangé des sourires complices, ont retrouver leurs repères, tandis que les petits nouveaux comme Yazid, Roman et Alana, eux, cherchent encore les leurs.
Ça y est, la cour des grands, ça fait peur au début, mais après avec les profs qui nous intègrent bien, ça va, ça se passe bien.
C'est notre première vraie journée, donc on ne sait pas trop exactement comment ça va se passer, mais on a déjà eu pas mal d'explications, du coup c'est sympa. Et voilà, on a hâte de découvrir les premiers cours magistraux et tout.
Moi j'ai 2 heures de cours personnellement et puis là je viens de terminer. Du coup ça va, on va aller réviser un peu à la bibliothèque.
C'est un peu plus grand, du coup on arrive facilement à se perdre, mais ça va, il y a plus de cartes qu'au lycée.
C'est une nouveauté ça aussi, la carte étudiant?
Oui, c'est une nouveauté, donc là on voit un peu comment la machine elle fonctionne pour recharger et tout. Et puis on va s'habituer, on va apprendre.
Bonne rentrée à tous ceux qui font la rentrée et puis voilà, bon courage.
Certains n'ont pas eu le droit à une pré-rentrée la semaine dernière, comme Yazid, Roman et Alana. Les étudiants en première année de l'IUT faisaient leur premier pas ce matin donc à l'UNC, une semaine de rentrée placée sous le signe de la découverte, comme l'a expliqué Sandrine Gravier, directrice de l'Institut universitaire de technologie.
On attache beaucoup d'importance à cette première semaine d'intégration où l'idée, c'est déjà de leur faire découvrir l'environnement dans lequel ils vont travailler, donc découvrir l'université, découvrir l'IUT, les outils et tous les espaces qu'on met à leur disposition. Et l'idée aussi, c'est de créer de la convivialité, créer de la cohésion, que ce soit au sein de leur promotion, avec tous les nouveaux camarades qu'ils découvrent, et avec les plus anciens, donc effectivement des temps dédiés avec les étudiants de deuxième année.
Quelques surprises aussi durant la semaine,
Oui. L'idée, c'est que ça soit aussi sympa et ludique. Donc, quelques surprises, des chasses au trésor. On organise tout ça de manière ludique pour aussi attirer et donner envie. Plusieurs surprises prévues tout au long de la semaine.
Tous les étudiants de première année ont donc fait leur rentrée officielle ce matin. Cet après-midi, ce sera au tour des deuxièmes années de l'IUT de retrouver les bancs de l'université.
Suivez les pages rentrées avec l'As de Trèfle. C'est la rentrée à prix mini à l'As de Trèfle. Jusqu'au 22 février, retrouvez un large choix de produits de qualité, papeterie, agenda, sacs et cartables, multimédia et livres. Et votre liste scolaire est préparée gratuitement. Pour une rentrée sans stress, rendez-vous à l'As de Trèfle Magenta, quartier latin Ecoumac ou sur asdetrèfle.nc. Ouais.
Dans le reste de l'actualité en Calédonie, l'actualité sociale et le CIASU de nouveau mobilisé devant le CHT, le syndicat des infirmiers et des aides-soignants des urgences du Médipôle, continue d'exprimer son ras-le-bol tous les lundis à 10h devant l'hôpital de Dembéa. La semaine dernière, trois membres du gouvernement se sont déplacés à leur rencontre et ont annoncé notamment la tenue d'un Ségur de la santé d'ici fin mars. Pour autant, le CIASU ne compte pas relâcher la pression. Yannick Roudeau, son président.
Nous sommes lassés, abîmés, écœurés. On n'a plus confiance en la parole donnée, en fait. Nous pensions avoir été entendus en mai, suite à une grève accompagnée par l'UTCFE-CGC. Deux phases avaient été actées. Aujourd'hui, le temps passe. La dernière réunion pour un Ségur date du 30 juillet 2025. Alors on est content. Le gouvernement a enfin pris acte de notre situation et sorti de son silence. C'était ce qu'on voulait. Maintenant, on veut de l'action. On parle d'un gouvernement orienté sur les réformes et l'action. Aujourd'hui, en tout cas dans la santé, on est toujours au même point. Rien n'a changé. Alors, je le rappelle, nous sommes déterminés dans une démarche de ne plus rien avoir à perdre, en fait. Et vous savez, psychologiquement, à ne pas être écouté, entendu, reconnu, presque à aller jusqu'au mépris, au bout d'un moment, on n'est pas téméraire, en fait. Est-ce qu'on change de boulot? Parce que vous pensez bien, quand ça joue sur votre vie personnelle, c'est plus possible, en fait. On n'est pas là pour faire les rabat-joie, on est là pour... changer le système, en toute humilité.
Le CIASU demande le vote d'un texte pour prendre des mesures urgentes. Le syndicat demande aussi d'accélérer le calendrier sur le Ségur de la santé. Enfin, il estime que la formation des soignants du CHT doit être une priorité. Un mot encore pour vous signaler qu'il y a un gagnant aujourd'hui au jeu SMS RRB au 40-20. Jacques de Valplaisance a envoyé au bon moment son SMS puisqu'il a remporté 100 000 francs qu'il peut dépenser où il veut, comme il veut. Pour être le prochain gagnant, c'est simple, vous envoyez RRB au 40-20 dès maintenant. Mais si vous n'avez pas gagné, soyez patient. D'autant plus que tous les SMS que vous envoyez seront remis en jeu pour le tirage au sort du million cette fois-ci. Attention, le tirage au sort du million, c'est vendredi prochain. Nous serons le 13 février à 14h par tirage au sort. Tous les SMS reçus depuis le dernier million gagné seront mis en jeu. Donc n'hésitez pas, envoyez tout de suite RRB au 40-20. En attendant, il est 11h49. On va marquer une nouvelle pause avant de se retrouver et d'évoquer l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole, on retrouve Jean-François Baudin.
Jack Lang n'aura pas résisté à la pression. Ses relations avec Jeffrey Epstein, révélées par les notes que l'administration américaine a déclassifiées, ont abouti à l'ouverture d'une enquête préliminaire du parquet national financier. L'ancien ministre de la Culture de François Mitterrand se dit soulagé de cette enquête qui va lui permettre, dit-il, de laver son honneur et il annonce qu'il va collaborer avec la justice. Malgré tout, Jack Lang a été contraint de démissionner de son poste de président de l'Institut du Monde Arabe. La pression était donc trop forte. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Et cela s'est vu dans les réactions qui ont suivi sa démission. Tout l'échiquier politique est unanime, de Xavier Bertrand chez Les Républicains.
Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'il dit. Une chose est certaine, il devait quitter l'Institut du Monde Arabe. Parce que la démission, c'est la façon de protéger l'institution.
À l'insoumis, Éric Coquerel.
Bon, écoutez, je ne voyais pas comment il pouvait faire autrement. Et je pense que c'était la bonne décision à faire plutôt qu'on l'y oblige.
En passant par la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon.
Je crois que Jack Lang a pris la seule décision
possible, la seule décision souhaitable. En l'état, la situation était, me semble-t-il, intenable.
Notons que Jack Lang indique accueillir avec sérénité et même soulagement l'enquête préliminaire ouverte par le parquet national financier. L'ancien ministre de la Culture assure qu'elle permettra de faire toute la lumière sur des accusations portant atteinte à sa probité et à son honneur. Il ajoute qu'il collaborera avec la justice. Enfin, le conseil d'administration de l'Institut du monde arabe se réunira sous 7 jours pour désigner un président par intérim.
6 personnes interpellées après l'enlèvement et la séquestration d'une magistrate et de sa mère la semaine dernière. Enlevées à Grenoble, les deux femmes ont été retrouvées 48 heures plus tard dans la Drôme où elles avaient réussi à échapper à leurs ravisseurs. 5 hommes et une femme ont donc été arrêtés dans le cadre de cette enquête. L'un des suspects est mineur, tous les autres sont âgés de 18 à 20 ans. Ils réclamaient 1 600 000 euros de rançon en bitcoin à la famille de leur victime. Le bitcoin qui n'est peut-être plus la valeur refuge idéale. La semaine dernière, le cours de la reine des crypto-monnaies s'est effondré pour atteindre une valeur plancher à 51 000 euros, un peu plus de 6 millions de francs. C'est 2 fois moins que son pic d'octobre dernier. Explication avec Barthélémy Philippe pour Europe 1.
Cette chute ne vient pas de nulle part. Depuis son record du 6 octobre, Bitcoin s'est progressivement enfoncé dans un cycle baissier dont le paroxysme a été atteint vendredi. Deuxième explication, l'ambiance de nervosité qui règne sur les marchés, crainte autour d'une potentielle bulle de l'IA, montée de la défiance autour de la tech et des logiciels. Très volatile, Bitcoin a subi au centuple les trous d'air encaissés par des actions vedettes comme Microsoft ou Meta, mais d'autres facteurs sont en cause selon John Plassard, associé chez Cité Gestion.
Vous avez des investisseurs qui avaient acheté à crédit en quelque sorte le Bitcoin, qui ont été obligés à cause de la baisse soudaine de vendre en chaîne. Dernière explication, les grands fonds de pension américains ont acheté massivement des fonds sur le Bitcoin. Dernièrement, ils ont commencer à vendre le plus rapidement possible.
Même si le rebond a commencé, la confiance des investisseurs s'est largement érodée, au point que la reine des cryptos mettra sans doute des mois avant de retrouver son niveau de l'automne dernier.
Et revenons à l'actualité en métropole avec une question. Les jeunes sont-ils de droite ? Il y a 30 ans, 54% des jeunes de 15 à 17 ans avouaient qu'ils avaient un penchant pour la gauche. Mais aujourd'hui, ils sont 56% à se dire proches des idées de droite, selon un sondage. Reportage dans un lycée du 16e arrondissement de Paris avec Mathieu Prior.
Devant le portail de l'établissement scolaire, les lycéens discutent de cours, mais aussi de politique. Certains assument être de droite. La première cause, les réseaux sociaux.
Je pense que les réseaux, ça influence énormément. Ça a été très médiatisé sur les réseaux comme TikTok.
Les champs qu'on voit le plus, c'est la droite, le RN.
La droite, elle a évolué. C'est-à-dire que Jordan Bardella, Marine Le Pen.
Ce changement de mentalité, Charlize, 16 ans, l'explique par certaines valeurs défendues par la droite.
Ce qui est beaucoup représenté, c'est la conservation du patrimoine français, qui m'intéresse en particulier. L'histoire de la France et la volonté de garder une culture vraiment française aujourd'hui.
Lola partage le même avis et va même plus loin. Pour elle, c'est la radicalisation de la gauche qui a mené à la droitisation des plus jeunes.
La gauche, c'est beau, la gauche du 19e siècle, c'est magnifique. C'est la République. La gauche, elle représente ça selon vous aujourd'hui ? Je pense plus. On défend des pays qui ne sont plus les nôtres, on défend des guerres qui ne sont plus les nôtres, et j'en suis pas d'accord.
Lola estime également que l'insécurité est sa première source d'inquiétude. L'insécurité qui est devenue l'une des principales préoccupations des adolescents.
Un mot de l'actualité à l'étranger et pas d'évolution notable dans le bras de fer diplomatico-militaire entre l'Iran et les États-Unis. On attend toujours l'ouverture de négociations sur le nucléaire iranien. L'Iran ne renoncera pas à l'enrichissement d'uranium, a déclaré cette nuit pour nous le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi.
Pourquoi insistons-nous autant sur l'enrichissement d'uranium et nous refusons d'y renoncer même si une guerre nous est imposée ? Parce que personne n'a le droit de dicter notre conduite. Si l'Iran insiste sur l'enrichissement, c'est parce qu'il refuse toute domination. Par ailleurs, le déploiement militaire américain dans la région ne nous effraie pas. Nous sommes un peuple de diplomatie, mais nous sommes prêts à la guerre afin que personne n'ose nous attaquer.
Et notez que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est attendu en milieu de semaine prochaine, cette semaine, à Washington pour rencontrer le président américain et faire un point évidemment sur ce dossier. Une rencontre qui pourrait aboutir à des décisions concernant une éventuelle implication militaire américaine en Iran.